Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Au programme aujourd'hui, Thimbleweed Park. Et puis vu que Patrick est là, c'est tout.
Voilà, on a une heure, on parle.
Il y aura aussi Monsieur Fall, il y aura aussi du Mass Effect Andromeda et on finira avec Kafka The Video Game. Et puis je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Joël Métro. Bonjour Joël.
Bonjour.
D'ailleurs, je t'ai déjà présenté. Donc, et Patrick Elio, bonjour Patrick. Voilà, c'est le et puis le reste du programme, oui, non, il y a que le com des coms, non, parce que le com des coms, je ne l'ai pas. Voilà, je complètement, non, je ne l'ai pas le com des coms. Il y aura un double com des coms la semaine prochaine. Non, mais parce qu'en fait, il y a eu un espèce de trou comme ça de deux semaines. Hein. Alors, vu qu'il y a eu des mises en ligne un peu hasardeuses, il fallait que j'en parle quand même.
Non, mais tu as raison d'en parler. Il faut aborder.
J'ai été complètement sous l'eau pendant trois semaines pour des raisons personnelles de déménagement. C'est compliqué, hein, déménagement. Bon, on ne va pas en faire une heure dessus, hein, mais voilà. Donc,
c'était ma news d'intro.
C'était ma news d'intro, j'ai déménagé. Non, oui, quand vous ne jouez pas aussi. Je pourrais en reparler à la fin de l'émission, si tu veux, par exemple. Bref, donc, on va commencer avec toi, Patrick, avec un Nintendo Direct.
Oui, qui a eu lieu cette semaine. Alors, on rappelle quelques mots, le Nintendo Direct, donc c'est le format privilégié par Nintendo depuis maintenant quelques années de communication, donc ça passe par Internet, des petites séquences vidéo qui s'adressent aux joueurs et puis à la communauté, enfin toutes les annonces passent par le Nintendo Direct. Donc on en a eu un il y a quelques jours qui était très attendu, puisqu'on est dans la foulée du lancement de la Switch qui cartonne partout, donc tout le monde attendait de voir un petit peu ce qui allait se passer. Alors la première grosse info évidemment à noter, c'est l'arrivée de nouveaux Amiibo, ça c'est très important, on a des nouveaux Amiibo qui ont été confirmés. Il y avait vraiment deux modèles qui étaient très attendus, c'était Cloud de Final Fantasy VII qui est confirmé en deux versions, et puis Bayonetta aussi, ça y est, on les attendait depuis longtemps, on savait qu'ils étaient plus ou moins prévus, mais c'est confirmé, ils arrivent dans les mois qui viennent.
Il y a vraiment des gens qui considèrent que c'est une actualité, les Amiibo.
C'est important, il y a toute une communauté autour des Amiibo, donc on en reparlera peut-être une autre fois, mais en tout cas, il y a eu des annonces du côté des Amiibo, et puis surtout, Nintendo a déroulé le line-up de jeux pour la Switch. Ça, c'est important parce que c'est vraiment ce qui va booster et conforter les ventes dans les mois qui viennent. Et puis, on se rend compte que le planning est plutôt bien agencé parce qu'il y a une actualité quasiment tous les mois. Il y a des gros jeux qui arrivent régulièrement, en tout cas chez Nintendo. Alors, quelques dates donc, qui ont été confirmées pendant le Nintendo Direct. Donc, Splatoon 2, qui est vraiment attendu comme une des grosses locomotives pour la machine, est confirmé pour le 21 juillet. Ça va être important parce que c'est évidemment un titre qui a fait un carton sur la Wii U, qui a pris une vraie ampleur. C'était relatif, mais il s'est vraiment démarqué à la fin de vie de la console. Et puis, c'est un jeu qui a pris une dimension... e-sport compétitive qui est vraiment importante aujourd'hui. Donc c'est un jeu qui va être attendu au tournant pour ce côté justement multijoueur online. On sait que le online va être assez payant sur Switch, donc il faut que ça fonctionne bien, ça va être attendu là-dessus. Je pense que Nintendo va soigner cet aspect, en tout cas ça va être un titre vraiment important. Le Mario Kart Deluxe, donc c'est une ressortie de la version Wii U qui arrive donc lui le 28 avril, donc c'est bientôt, lui il arrive très 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 prochainement. ARMS, qu'on avait pu voir lors de la présentation à Paris, que j'avais un petit peu pris de haut moi à l'époque, je ne trouvais pas ça terrible. Et là en le revoyant, là, il y a eu une longue séquence dans le Nintendo Direct. Ah tiens, est-ce que ça peut pas être une sorte de nouveau Punch-Out plus dynamique, plus ça peut le faire.
Mais c'est du motion gaming.
C'est du motion gaming.
Donc il y a toutes les limites du motion gaming.
Évidemment, on sait que ça c'est un peu passé de mode, c'est toujours un peu difficile. Maintenant, moi ce que j'en ai vu, là commence à me titiller. Hein. Donc lui il arrive sur le 16 juin, donc c'est pareil, ça va aller assez vite. Alors là, ils ont sorti quand même ce titre qui peut lui aussi faire pas mal de score, c'est Minecraft qui arrive le 12 mai, donc ça c'était indispensable, mais il fallait le confirmer. Il arrive, donc lui il va arriver en démat le 12 mai, puis après en physique un peu plus tard. Voilà, ça se passe aux commentaires, on sait le rouleau compresseur que peut représenter Minecraft sur une machine comme ça qu'on peut emporter avec soi, qu'on va pouvoir jouer à la maison, etc.
Il est
vraiment taillé, voilà, il peut vraiment apporter un vrai plus, et puis bah, il va y avoir tous les contenus spéciaux Nintendo qui étaient déjà, je crois, sortis sur Wii U, donc voilà, un titre à suivre. Il y a un jeu qui m'a titillé, c'est Namco Museum. Alors attendez, je sais, on en a eu 15 hein, sur PlayStation, etc. On retrouve du Pac-Man, du Galaga, voilà, tous les classiques. En revanche, il y a des petits titres, il y a du Rolling Thunder, du Splatterhouse, qu'on a un peu moins vu en compilation récemment. Et puis surtout, c'est un jeu qui va permettre, d'après ce qui a été annoncé, de retourner l'écran. C'est-à-dire d'avoir une version arcade. Donc ça va vraiment être à suivre, ce qu'on avait sur la Lynx d'Atari, où on pouvait jouer comme ça sur Klax, je me rappelle qu'on avait pu. Donc ça, pour l'instant, j'ai rien vu concrètement de ce que ça peut donner, mais ça peut être intéressant sur ce genre de titre qui s'y prête. On a aussi des portages qui arrivent, qui sont confirmés. Donc le Rayman, c'est pas plutôt bien, le dernier Rayman en date. Par contre, on a Payday 2.
C'est Rayman Legends, une sorte de Definitive Edition.
C'est ça, avec des ajouts, etc. Donc on n'a pas de date. Lui, je trouve qu'il s'y prête plutôt bien. Par contre, on a Payday 2.
Moi, c'était le titre qui m'a étonné.
Alors c'est bizarre.
C'est un jeu de
multijoueur. De cases de banque.
Assez nerveux, assez violent. Et ça, c'est assez.
Et c'est étrange, je vois pas trop ce qu'il vient faire sur Switch. Pourquoi pas, mais je suis pas sûr que ce soit le. Ben, moi, c'est pas le genre de jeu que j'attends forcément sur cette machine. C'est un peu.
Mais c'était un jeu, c'était un bon jeu.
Oui, c'était un bon jeu. Et puis bon après, c'est ce que tu dis, ça vaut aussi pour Splatoon. C'est-à-dire qu'il faut.
Ah, mais il faut.
Des jeux online pour.
On est d'accord. Payday 2, je suis pas sûr que ce soit le plus. Bon, on verra bien. En tout cas, lui, il arrive. Il y a eu quelques titres DS qui ont été confirmés aussi.
Le Pikmin
en 2D. Qui arrive fin juillet, ça, donc c'est un jeu de l'été, c'est très bien, qui a l'air très joli, intéressant. Ouais, fin juillet. On a le retour du programme d'entraînement cérébral avec une version infernale qui revient en juillet. Bon.
Ouais.
Alors par contre, aucune news de la Wii U. Hein. Je pense que c'est vraiment fini. Non, mais moi j'ai un petit truc quand même, c'est fini. Et puis un titre moi que je vais suivre avec intérêt qui sort le 23 juin, c'est RPG Maker Faces qui sort, qui va être un jeu de construction de RPG avec partage en ligne, etc. Ça peut vraiment être intéressant. Et puis juste pour conclure, donc ça c'était pas dans le Nintendo Direct, on a eu quelques infos de Nintendo US. Une bonne nouvelle, c'est que la Switch confirme que c'est a priori le meilleur lancement de Nintendo aux États-Unis. Donc ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que la machine prend de l'ampleur et ça cartonne vraiment. Mauvaise nouvelle, c'est que visiblement la NES Mini est en fin de production. Ils ont annoncé que c'était les dernières livraisons aux États-Unis. Donc ça sent un peu la fin de la machine. Bon, Nintendo avait dit que ce serait pas une machine au long cours qui va
conduire. J'ai bien tes mauvaises nouvelles.
Bah quand même. Non, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui voudraient éventuellement en récupérer une, faut pas trop traîner. Hein. Déjà, moi, ce qui est étonnant, c'est que je l'ai jamais vu en magasin. Enfin, moi j'avais précommandé la mienne, j'ai jamais vu en magasin. Je pense qu'elle a toujours été en flux tendu. Mm-hmm. Et bon, en tout cas, il faut pas trop traîner. Et on attend à l'E3, est-ce qu'il y aura des annonces sur une super Nintendo Mini? Ça pourrait être intéressant.
Il y a pas un truc qui manque?
Du genre.
Non, mais du genre, un des jeux les plus attendus de l'année, quoi. Enfin,
Le Mario ?
Bah oui.
Ah, mais ça, c'est trop tôt. Je pense que Nintendo, je crois, a annoncé qu'il y aurait à l'E3, il y aura quelque chose à l'E3, il va y avoir des annonces. Je pense qu'il sera à l'E3 en force. D'accord. Là, c'était plus sur les mois qui viennent. On sait qu'il est en fin d'année, hein, le Mario.
Oui, on sait déjà, mais bon, je pense que c'est un peu. Ça fait bizarre de parler du futur de la Switch sans évoquer.
Chaque chose en son temps, là, je pense qu'ils ont bien consolidé les mois qui viennent, en gros, jusqu'à fin d'été, rentrée, et puis bah, la suite arrivera. Je trouve que c'est plutôt intelligent de. Justement, de consolider les mois qui viennent.
De Mario.
Je pense qu'à l'E3, on va en voir du Mario.
Les deux, c'est bien.
Bah, ça, oui, ça, c'est la question. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, non, le Mario, ça va. Je ne suis pas inquiet sur le Mario.
Il faudra un MOBA. Un MOBA sur Switch.
Ça serait bien.
Pourquoi pas ? Non, mais tout est possible.
Joël, Microsoft.
Oui, enfin, je vais parler plus globalement d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, comment,
parlons pognon.
Voilà, comment on rend l'argent ?
Comment on rend l'argent ?
de différentes manières. D'abord, en étant remboursé. Microsoft est en train de tester, en fait, pour sa Xbox One, le principe donc, du remboursement qui a cours sur Steam. C'est-à-dire que lorsqu'on pourra acheter un jeu, en fait, on achètera un jeu dématérialisé sur Xbox One, on pourra l'essayer 2 heures, et si ça ne nous plaît pas, hop, on le revoit, on l'efface, et puis on se trouvera remboursé de la somme qu'on aura investie dans le jeu. Voilà, je trouve ça pas mal. Effectivement, ça laisse aux joueurs le loisir un peu de d'essayer le jeu, de voir
c'est
si ça lui plaît
démo,
ou pas.
Quoi. Enfin, c'est un peu comme une sorte de version démo, mais tu télécharges
123
gigas à la place. Quoi.
Le fait que ce soit systématique, en tout cas, je trouve ça pas mal. Donc, première news argent. Deuxième news argent, comment gagner de l'argent grâce à Nintendo et plus largement grâce à la Nintendo Switch. C'est grâce à un programme en fait, qui s'appelle HackerOne, un programme en fait, auquel a souscrit Nintendo et auquel ont souscrit également d'autres entreprises comme Dropbox, comme Twitter, et qui consiste en fait à chercher les failles dans les différents programmes, oui. dans les différentes machines. Ce programme en fait, auquel avait déjà souscrit Nintendo pour sa 3DS, et pas pour sa Wii U, curieusement, ce programme en fait, a été étendu à la Switch. Donc, en fait, Nintendo propose aux joueurs d'essayer de pirater sa Switch, et s'ils y arrivent, ils gagnent entre 100 et 20 000 $. 20 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Voilà, si vous voulez gagner un petit peu d'argent,
Oui, d'accord, en fait. Ils envoient un truc, allez-y, hackez.
Allez-y, hackez, et puis...
C'est pour trouver les failles, en fait.
Pour trouver les failles, voilà.
C'est pour trouver les failles. Donc, oui, comme je l'ai dit, pas de comme des comme. Oui, parce que j'ai complètement zappé. Je suis mais à la rue complet. Hein. Enfin, voilà. Merci d'être là, chers amis, hein, parce que vous avez...
En parlant de la rue, moi, je note d'ailleurs que dans mes notes, j'avais noté que l'écran était vertical sur les versions arcade du Namco Museum. Mais je pense que ça va être l'écran qui reste à l'horizontale, mais que l'écran va être inscrit en vertical dans l'écran horizontal.
Quel rapport avec la rue ?
Pardon ?
Quel rapport avec la rue ?
Je reviens sur ma rue. D'accord. Et en fait, ce qui serait intéressant, je pense, c'est que l'écran devienne vertical.
Ok.
Mais ça, c'est pas confirmé. Donc ça va être à voir. Moi, c'est ce que je voudrais voir.
Pour une émission spéciale ?
Espérons. Tu vois, c'est l'idée à retenir.
Bon, on va commencer tout de suite parce que c'est aux commandes, c'est Ron Gilbert, notamment.
Ah,
c'est
oui.
Ron Gilbert, Maniac Mansion, et puis Monkey Island et les autres, enfin la grande époque de LucasArts. Il était revenu avec The Cave, qui avait moyennement convaincu parce qu'il sortait un peu de sa zone de confort.
Alors, il est sorti plusieurs fois de sa zone. Il est parti sur d'autres choses pendant une époque et c'était très bien. Il a fait d'autres expériences.
Mais là... Il revient au cœur du problème.
Il revient aux racines, où tout a commencé ou presque.
Avec Thimbleweed Park. Tell me again why you're here. I was assigned to the case by the home office in Albuquerque. There is no home office in Albuquerque. It's neat to know. Earlier this evening, we found a body down by the bridge. I don't remember calling the Federinos. Was the money deposited into my account like we agreed? I think it's time we came clean and told the truth about why we're in. Alors quand on lance Thimbleweed Park,
il y a
des chiffres. 1987. Mm-hmm. Voilà, on y va, Joël.
Ne me laissez pas seul sur un sujet comme ça, parce que je vais déraper, je vais dire n'importe quoi. On l'attendait, évidemment, ce retour de Ron Gilbert. On rappelle un petit peu, je crois que c'est en 2014, ça part un petit peu d'une rencontre, d'une blague entre Ron Gilbert, qui est un des pionniers chez LucasArts, qui fait vraiment partie de la core team qui crée les point and click mythiques. C'est lui qui a la tête de Maniac Mansion. En fait, il discute avec Gary Winnick, c'était son sidekick à l'époque de LucasArts, et c'est tous les deux, ils s'étaient rencontrés chez Lucasfilm Games à l'époque, et tous deux sont des fanas de films de série B, d'horreur, tout ce que j'adore aussi, et ils se sont dit, tiens, on va faire un jeu d'horreur aventure, avec toutes nos références second degré, Et à l'époque est sorti Maniac Mansion, qui est une date, une vraie date dans le jeu d'aventure graphique. Il impose plein de choses, une nouvelle interface graphique, une interface...
Le
fameux Scum qui va pendant des années alimenter les productions LucasArts. Il impose
pour bien dire, parce qu'en fait, le Scum va être aussi important dans Thimbleweed Park. L'idée du Scum, c'est d'avoir des actions, une liste d'actions.
Graphique, tout est graphique.
Tout se joue à la souris.
Ou avant, parce que c'était du Commodore à la manette, on actionnait comme
et
on
donc,
pouvait.
Donc, en fait, on cliquait sur une action, puis sur un objet, qu'il soit dans l'inventaire ou à l'écran. Et puis, on pouvait aussi...
se balader dans l'écran.
Voilà, et utiliser deux objets ensemble.
Tout passe avec le curseur.
Utiliser... telle chose avec telle chose, la marmite avec le truc, et puis voilà.
Donc, tout est visuel. Ça nous paraît évident aujourd'hui, on est à l'heure du tactile partout, mais il faut se rappeler qu'en 87, quand lui travaille dessus en 86, on est en pleine époque Sierra Online. Et une anecdote qu'a raconté Gilbert, c'est qu'en fait, il a eu un déclic en se rendant chez un cousin, lui, je crois, aux fêtes de Noël. Il jouait avec son petit cousin qui galérait sur King's Quest. King's Quest, c'est un pionnier, c'est le jeu de Sierra Online, l'autre éditeur américain culte du jeu d'aventure. C'est pionnier, donc on peut le critiquer, mais c'est eux qui ont quasiment inventé le jeu d'aventure graphique. Et il galérait parce que son petit cousin, il fallait déplacer son personnage et rentrer encore des ordres au clavier. Bon, c'était galère. Et c'est là où Gilbert aura eu ce déclic de dire...
De donner King Quest à son petit cousin.
Même à l'époque, c'était pareil. Il faut recontextualiser. À l'époque, King's Quest, c'était une révolution. C'était novateur. Bon, voilà, il y avait des limitations dues aux machines, etc. Et donc, c'est là qu'est née c'est une réplique un petit peu à Sierra Online de dire, nous, on va faire un univers beaucoup plus graphique, plus facile à utiliser. Et donc, ce Maniac Mansion déboule en 87. Il casse un peu tous les codes. Il réinvente une nouvelle interface, des graphismes très coloré et surtout un humour qui va pour moi c'est vraiment ce qui ressort de Maniac Mansion, c'est un humour, un ton très spécifique à Lucasfilm Games. L'anecdote qui est importante, c'est qu'à l'époque, donc, pas mal de ces gens, David Fox, qui est un des gros designers aussi de LucasArts, Ron Gilbert, tous ces gens arrivent chez Lucasfilm Games, en général, en disant « Tiens, je viens bosser chez Lucas, je vais faire du Star Wars. » On est dans l'âge d'or de Star Wars, on est vraiment sur la première trilogie. C'est clinquant, ça fait rêver. Et les ordres de George Lucas, qui a eu le nez en lançant cette division jeux vidéo dès le début des années 80, il sent qu'il va se passer un truc et qu'il va pouvoir raconter des histoires avec le jeu vidéo. Il leur dit, vous faites à peu près ce que vous voulez, mais pas de Star Wars. Parce que Star Wars, c'est chez des éditeurs tiers, il y a des deals qui ont été faits. Pour l'instant, vous n'y touchez pas, vous faites ce que vous voulez. Ça va motiver tous ces game designers à débrider leur imagination et à créer leurs propres univers. C'était assez... D'ailleurs, ça a été redit par des gens de l'époque. C'était un privilège dans les années 80 d'être chez Lucas et de pouvoir créer eux-mêmes des propres univers au sein de l'univers Lucas, qui était une sorte de monde un peu à part.
Et eux, carte blanche, quoi.
Ils faisaient à peu près ce qu'ils voulaient. Évidemment, George Lucas venait voir un petit peu ce qui se passait. Évidemment, il fallait pas abuser sur certains sujets. Il y avait des limitations. Mais à part ça... Ça explique aussi Maniac Mansion, qui est un jeu un peu fou à l'époque.
Et puis les autres, c'est
rempli de références. Et donc Maniac Mansion, c'est une date. Il fait vraiment beaucoup de bruit à l'époque dans le jeu d'aventure. C'est le premier titre vraiment d'aventure chez Lucas. Il y a eu un premier prémisse avec l'adaptation de Labyrinthe, le fameux film avec David Bowie, cultissime, Jim Henson, tout ça. C'est une première touche un an avant sur le jeu d'aventure, mais vraiment Maniac Mansion, c'est une première étape. Un moteur est créé en interne. Parce que Gilbert le dira plus tard, au début, avec Winnick, il pense faire un jeu plutôt action-aventure, et puis finalement, il se rend compte que.
On n'est pas dans le 1987 du jeu, on est toujours en 1987.
Et donc, pour conclure brièvement, donc Maniac Mansion, c'est une première marche vers ce qui va devenir un âge d'or de LucasArts, LucasArts.
On peut citer évidemment.
Zach McCracken, qui arrive juste après, qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu.
Monkey Island, Chuck Revenge, le Monkey Island 2.
Indiana Jones, 3,
qui
était sorti en même temps que le film, avec pas mal d'interactions, des digressions narratives super intéressantes, qui était un très bon jeu, sur lequel a bossé aussi Gilbert.
Et évidemment, la suite de Maniac Mansion.
Death Tentacle. Alors justement, donc on revient sur ce film Thimbleweed Park.
Donc dans le présent.
Donc le présent, enfin plutôt une réalité alternative, parce qu'on est dans le 87. Le but, c'est ce qui avait été annoncé par Gilbert lorsqu'il a lancé son Kickstarter il y a quelques années maintenant. Je me rappelle encore cette photo qu'il avait prise. Il ouvrait un tiroir en montrant une vieille disquette Amiga avec marqué Thimbleweed Park, et il disait en fait sa promesse c'était: regardez, on va faire un jeu comme si vous trouviez un jeu de l'époque que vous n'aviez pas encore fait, un jeu LucasArts qu'on n'avait pas encore lancé. Et c'est vraiment le topo. C'est la promesse du jeu. Et en fait, ça se prend un peu comme une time capsule. En fait, on se retrouve en 87 avec un jeu d'aventure qui reprend les codes. Et là, c'est vraiment pour les... Enfin, moi, je suis vraiment attaché à Maniac Mansion parce que c'est vrai qu'il y a eu des suites, il y a eu des digressions. Il y a eu Dev's Tentacle qui est un chef-d'œuvre. On ne va pas revenir dessus. On en a parlé ici il n'y a pas très longtemps parce qu'il a, osé pas mal de choses. C'était Tim Schafer qui avait pris la relève sur Dev's Tentacle. C'est un vrai chef-d'œuvre, mais avec un look particulier, différent, et puis un raccord un petit peu différent sur Maniac Mansion. Moi, je l'ai toujours vu comme une digression plus que comme une suite de Maniac Mansion. Pour moi, dans l'esprit, il est un petit peu différent, avec plein de qualités, mais différent. Là, Fimbleweed Park. Fimbleweed Park, c'est vraiment une suite spirituelle de Maniac Mansion. Donc, un jeu de 87. Donc là, ça s'adresse vraiment à des gens qui ont adoré ce jeu, qui ont je pense, un affect avec ce titre. Avec Zach McCracken aussi, qui suivait juste après. Donc, on se retrouve vraiment dans un jeu qui reprend les codes. C'est-à-dire qu'on a une interface qui reprend, comme tu disais, le système avec une page graphique principale sur laquelle on balade son curseur, une liste de verbes, les éléments de l'inventaire, et c'est à peu près tout. Tout se fait après naturellement à la souris. Alors évidemment, c'est un jeu de 87, mais on a quand même le luxe actuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de changement de disquette. Il faut se rappeler qu'on a les séquences de grille-pain sur Amiga, c'était un petit peu fatigant. C'est fluide, ça marche bien, mais on retrouve ces codes de charte graphique, et c'est là où ça fait plaisir. Enfin, moi, je pense que je fais vraiment partie de ce public à qui s'adressait ce jeu. C'est que on sent une envie maniaque de reprendre vraiment les codes de l'époque et d'en jouer. D'ailleurs, c'est parce qu'on se rend compte que il y avait finalement, ça a plutôt bien vieilli visuellement. Il y avait vraiment, une sorte de naïveté dans le trait parce qu'on était sur quelques pixels, c'était assez réduit. Je crois qu'il y avait même des impératifs de calage des sprites qui devaient tenir sur telle place à l'époque. Mais ça marchait. Ça donnait vraiment une ambiance graphique avec des personnages un petit peu déformés et ça concourait vraiment à créer une ambiance très particulière. Donc tout ça est repris à la lettre, c'est-à-dire qu'on retrouve vraiment ce design très particulier.
J'ai envie d'être un peu mauvaise langue, mais est-ce que c'est pas non plus... le jeu, comment a été financé le jeu ?
En Kickstarter, en partie. Kickstarter. Hein,
est-ce que c'est pas un énième moyen de... Alors je sais bien qu'il le... voilà, que le... que l'auteur a, comment dire, un passé chargé et un bon passé, mais est-ce que c'est pas un moyen un peu détourné, comment dire, de cacher un peu le fait que le jeu soit... un budget plutôt modeste.
Ah non, parce que...
Pas du tout.
Non,
franchement, juste parce que... J'ai joué aussi.
Voilà.
je te redonne la parole.
Je suis un peu l'avocat du diable, mais voilà.
Mais alors, moi, j'ai aussi connu, hein, comme Patrick, j'ai aussi joué au jeu LucasArts à l'époque, notamment au début des années 90. Et ce qui est impressionnant quand on lance Fimbleweed Park, c'est qu'on se dit, ah ouais, il y avait ça... Et il y avait cette écriture, il y avait ce look, il y avait cette façon de relier ce qu'on lit avec ce qu'on voit, et ce décalage qui se crée tout le temps, une sorte de second degré, enfin pas de, c'est, le second degré c'est trop vague, mais d'humour comme ça,
un peu pinçant,
mais toujours en décalage entre ce qu'on a à l'écran, et en fait c'est un jeu forcément nostalgique.
Qui assume
cette fibre nostalgique, mais c'est pas au contraire, c'est pas du tout le fait que ce soit pixelisé, qu'on retrouve le look façon LucasArts, c'est pas du tout un cache-misère, c'est assumé. Et en plus, pour rajouter que on retrouve un côté presque technologie de 2017 dans cette utilisation de pixels. C'est-à-dire il y a une fluidité, ils se permettent des choses, ils se permettent d'accélérer les mouvements.
On relance Maniac Mansion de 87 sur Commodore ou sur Amiga, évidemment.
Il y a ce qu'on a appris en 30 ans de game design.
Nous sommes en 2017.
Voilà,
effectivement.
Ça sent vraiment.
Comme tu dis, il y a une réalisation qui est beaucoup plus fluide, évidemment. Même en dehors de ça, même dans l'écriture, moi, j'ai trouvé que sous ces aspects un peu comics, rigolos, déjà dans Maniac Mansion, il y avait une noirceur latente. Hein. Enfin, c'était quand on se replonge dans Maniac Mansion, c'est un jeu noir qui est assez sombre avec des sous-entendus, des personnages assez glauques. La famille Edison dans le jeu est flippante. C'est des vrais tordus. Ça fait peur en fait. Il y a vraiment un côté comique mais effrayant par-dessous. Là, on est en 2017, même dans l'écriture. Enfin, le jeu évidemment multiplie l'aspect méta. On est dans
très
un
vite,
monde
hein. très vite.
Dans un monde absurde comme dans Maniac Mansion et dans les grands jeux de Ron Gilbert de l'époque, mais là il y a vraiment un aspect méta qui était déjà là, enfin dans les Monkey Island on citait Lucas, on mettait en scène Lucas, c'est aussi un propre de ce genre aussi à l'époque, c'est qu'on met en scène son propre mythe. On met en scène la boîte, on construit le mythe en le mettant en scène dans ses jeux. Enfin, c'est assez étonnant et c'est assez spécifique à ces jeux-là. Et là, ça va très très loin. En fait, pendant tout le jeu, on est tout le temps entre la barrière du méta, on n'arrête pas de la franchir, de mettre en scène l'histoire du point and click. On sent que Gilbert n'arrête pas de citer Sierra Online. On est en 87, quelque part, avec ce duel qui se décide entre Sierra Online et LucasArts. LucasArts qui arrive après chronologiquement, donc qui apprend aussi des erreurs du pionnier, ce qui est logique. Donc, évite les impasses, les morts des personnages, tout ça, c'est rectifié. Et tout ça, c'est mis en scène, là, dans Fimbleweed Park. Le jeu mettre en scène.
De quoi ça parle ?
Ah, de quoi ça parle ? Il y a un scénario.
C'est un jeu d'aventure, il y a un scénario.
Il y a un scénario. Alors, c'est vrai que le Maniac Mansion était très alimenté par le film d'horreur de série B, Creepshow, La Petite Boutique des Horreurs. Là, il y a ça, toujours. Et puis, il y a tout. On est en 2017, donc il y a eu des séries télé qui sont passées entre deux.
X-Files.
X-Files, Twin Peaks qui sont passées quand même entre deux. Donc, il y a tout l'héritage série télé avec des personnages, on reconnaît plein de clins d'œil à ce niveau-là. Avec surtout une écriture. Enfin, moi, il y a longtemps que je m'étais pas, que j'avais pas rigolé comme ça devant mon écran.
Il y a un cadavre.
D'accord.
Ouais. Il y a un cadavre. Le cadavre commence. Il pixelise. C'est tellement bête. C'est tellement con comme blague que ça m'a vraiment fait rire.
C'est-à-dire que. Il pose pas. Il
pixelise. Bah, voilà. C'est normal.
Il faut le prendre en photo avant qu'il pixelise. Enfin voilà, c'est assez marrant.
Bardé de petits mots comme ça. Mais ça, c'est un propre de Ron Gilbert, c'est qu'il n'y a quasiment pas une ligne de dialogue sans une petite vanne ou un petit clin d'œil. Ouais. Rarement. Il y a toujours quelque chose qui te fait rebondir.
Et donc, il va falloir découvrir ce trou paumé qu'est Thimbleweed. En plus, le truc qui est très, très malin dès le début, c'est qu'on joue deux agents. Une femme et un homme. Ouais. Ils ne se connaissent pas. Et puis, en fait, on a accès à leur carnet de notes. Et donc, on se rend compte dès le début, en regardant les pages d'avant, qu'en fait, ils ne sont pas forcément là pour les bonnes raisons. Et puis, ils ne sont pas forcément
là. Ça, c'est des choses qui sont nouvelles par rapport à tout ce qu'on pouvait avoir sur les précédents.
C'est-à-dire qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à découvrir sur les propres personnages qu'on joue, qui ont chacun un objectif qui semble différent. En tout cas, ils sont à la limite de l'escroquerie, les deux.
Et tous les personnages sont.
On va découvrir et l'aventure et nos propres personnages en sachant qu'on peut switcher d'un personnage à l'autre.
Et ça aussi, c'était une des grandes nouveautés de Maniac Mansion, c'est de permettre de choisir son équipe au début du jeu. D'ailleurs, Gilbert et Winnie ont dit après que c'était arracher les cheveux d'avoir tenté ça parce que c'était une complication folle pour. Écrire le scénario avec les différentes équipes possibles. Mais c'était une innovation. Il l'a refait dans The Cave et là, on retrouve. Et c'est étonnant parce que. Ça me rappelle un petit peu la construction des films Star Wars de l'époque. Où pareil, on avait aussi plusieurs équipes dans le scénario qui étaient divisées. Et quand on regarde les Star Wars, c'est découpé comme ça, avec des équipes chacune dans un endroit différent et qui se relient. Et est-ce que c'est l'héritage de l'écurie Lucas ? Peut-être pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a cette inspiration cinématographique. Encore une fois, il y a l'écriture. Moi, c'est vraiment l'écriture, ces blagues continues. Et puis, il y a des choses, moi, que j'ai trouvées... Alors, j'étais mort de rire. C'est Ransom, le clown. Je ne sais pas... Moi, c'est un des... Ce personnage, mais j'étais mort de rire devant mon écran. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Le personnage est acide, il est méchant, mais il est adorable à l'écran. Enfin, il est super bien écrit, il est super attachant. Donc, pour les fans, il y a des scènes qu'on recroise plein de personnages de l'écurie. LucasArts, on en parle. Ça va assez loin dans le méta, sans faire trop de spoil. On croise quand même un des personnages dont l'objectif, c'est d'aller bosser chez LucasArts. Donc, il y a toute une partie du jeu où on doit essayer de
enfin, en fait,
ça va très très loin.
Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, quand on joue à Thimbleweed Park, il y a un côté limite testamentaire de Ron Gilbert. Testamentaire, mais pas.
Il y a un regard, en tout cas. Il y a un regard 30 ans après.
Voilà, il y a
un bilan.
Il y a un bilan.
Voilà, il y a un côté. À certains moments, moi, j'ai eu l'impression de lire une interview de Ron Gilbert. Enfin, comme s'il nous parlait directement de sa vision du jeu, de sa vision de l'histoire du jeu, de sa. Alors c'est par des petits, c'est par des petites références, des petites choses comme ça. Mais il y a quelque chose. Il y a un, il y a, il y a, il y a certaines lignes de dialogue où on dialogue avec Ron Gilbert.
Bien sûr.
C'est assez fascinant. Ouais.
C'est le propre du jeu d'aventure. Pour moi, c'est un des genres qui consacre le plus l'auteur en tant qu'auteur d'écriture, qui écrit. C'est très écrit comme jeu. Et on sent, moi, c'est ce que je me suis dit plusieurs fois, j'ai eu l'impression un peu d'un réveil 30 ans après. Il se replonge sur ce genre. Il a fait d'autres choses, Ron Gilbert. Il ne faut pas croire qu'il était dans un placard. Puis non, ce n'est pas vrai. Il a fait d'autres choses. Mais là, il se retourne vers donc ce passé, ce jeu, ce genre qu'il a beaucoup contribué à populariser à l'époque. Et il y a un côté un peu acide. Il y a Ransom, le clown. Bon, ça, c'est plus, ça tient plus de la blague in-game. Mais globalement, j'ai senti un peu une gueule de bois, un peu comme si il demandait un peu, mais il s'est passé quoi en 30 ans, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au genre point and click ? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que moi, que j'ai eu autant de plaisir à rejouer à ce titre-là, à me plonger dans les codes d'il y a 30 ans ? Pourquoi ? C'est un genre qui a évolué, il y a eu plein de choses, il y a eu les Telltale, il y a eu plein de choses. Il a évolué sous plein de formes différentes. Mais en tout cas, même dans le propos, comme tu disais, de Ron Gilbert, on sent qu'il y a... Une sorte de désillusion. Il y a des moments assez rigolos quand on recroise d'anciens personnages. On recroise le couple vedette de Maniac Mansion, donc Dave et Sandy. Ces deux personnages, ils tiennent un espèce de tripot, là, et ça sent un peu la loose. Enfin, il y a un côté, il y a un peu une gueule de bois de 30 ans après. Ça pose pas mal de questions sur... c'est un objet passionnant. L'aventure est intéressante. Le scénario, tu nous demandais le scénario, il est vraiment intéressant. Il est fou. Il y a des, comme toujours, ce sont aussi les codes LucasArts, des énigmes. Il faut se plier à la logique du jeu. Alors, il faut aimer ça, hein, c'est un exercice de se
plier. Mais en même temps c'est, moi ce que ça m'a fait songer quand j'y ai joué, c'est qu'en fait, LucasArts a emmené son secret dans sa tombe, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, le jeu d'aventure a continué après LucasArts. Bon, il a eu quand même un gros trou noir entre la fin de LucasArts et le début de Telltale. Hein, et Walking Dead, grosso modo. Il y a eu il y avait quelques indés qui réussissaient à faire vivre le truc. Et en fait, on se rend compte en lançant ça que, bah oui, mais même si le jeu d'aventure a été relancé, notamment avec The Walking Dead, et puis, ou des productions comme Quantique et tout ça, il y avait quand même quelque chose qui avait disparu. On parle de l'écriture, mais c'est
pendant une heure devant un écran avec le pixel qui te brûle les yeux parce que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'il faut faire. Et ça, il faut aimer. C'est vrai que je sais qu'il y a plein de joueurs qui vont bloquer dessus parce qu'il faut aimer ça. Aujourd'hui, on a plus d'outils qu'à l'époque. Enfin, aujourd'hui, une solution, si vraiment on bloque, et ben on peut se dire... C'est peut-être là où il va falloir savoir gérer une solution d'un jeu, c'est-à-dire que maintenant on peut y accéder facilement, il faut peut-être aussi se limiter, se dire j'y vais vraiment en cas de blocage absolu. Voilà, il faut aussi peut-être s'auto-bloquer là-dessus. Maintenant, oui, c'est vrai qu'on retrouve un rapport qu'on avait un peu oublié. Et puis surtout, ouais, moi, c'est ça qui faisait la force du LucasArts. C'est pas forcément la difficulté des énigmes qui sont là. C'est vrai qu'il faut se plier. Mais c'est surtout un monde avec ses codes. Ses codes vraiment à lui, complètement barrés. Un côté bizarre, un univers vraiment particulier. Et ça, on le retrouve. On le retrouve, c'est cité à longueur de temps. Certains ont dit que c'était un peu passéiste, que Ron Gilbert, j'ai lu ça, parlait de lui tout le temps. Non, moi je pense que non, il questionne un genre auquel il a contribué. Il pose des vraies questions sur qu'est-ce que c'est devenu, qu'est-ce qui s'est passé entre deux. Et encore une fois, là, ça fonctionne. Moi, ce jeu m'a plu, vraiment. Ça a été un vrai retour en... comme si on retrouvait un copain qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. On est content de rediscuter. Oui. Ah bah tiens, machin. Est-ce qu'il y aura une réplique ? Je ne suis pas sûr. C'était un instant, là, un retour. Aujourd'hui, c'était un ravissement. D'y retourner, est-ce qu'il faut le refaire ? Je ne suis pas sûr.
Pour moi, c'est vraiment testamentaire. C'est testamentaire d'un genre.
Il y a certainement...
En fait, grosso modo, finalement, LucasArts, quand ça s'est terminé, les jeux d'aventure point and click façon LucasArts, ça s'est terminé sans cérémonie. Il y en a eu un, et puis le jour suivant, il n'y en a plus.
Et finalement, c'est peut-être la
cérémonie d'adieu qui arrive 20 ans plus tard, on va dire, et qui est là pour conclure une période. On avait oublié de la conclure. On vous donne un jeu qui conclut une période qui s'est terminée il y a 15 ans ou 20 ans.
Sur cette époque qui... Mais ce n'est pas un jeu passéiste. Enfin, moi, je tombe même dans l'écriture, dans l'humour. Ce n'est pas un jeu à pleurer. Au contraire, moi, je trouve qu'il est plutôt rigolo. Il y a des vrais fulgurants d'humour. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la comparaison avec Broken Edge de Tim Schafer, qui est sorti, qui a été kickstarté par les fans de Point and Click. Au final, qu'est-ce qui nous reste de Broken Edge aujourd'hui en termes d'écriture ? Pas tant que ça. Et là, je trouve qu'au contraire, il y a un vrai... il y a vraiment un humour, il y a quelque chose vraiment qui reste... Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à visiter ce jeu.
Thimbleweed Park, donc nouvelle dernière création de Ron Gilbert et comment il s'appelle l'autre, son copain?
Ah, c'est Gary Winnick et puis ouais. David Fox aussi qui a travaillé. Enfin, c'est vraiment la core team de l'époque qui s'est retrouvée, qui a travaillé là-dessus. Donc, encore une fois, ceux qui ont fait les jeux à l'époque, qui ont aimé Maniac Mansion, vous allez voir, il y a plein de clins d'œil, on croise plein de caméos de personnages. C'est un vrai régal. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, ça peut être une bonne introduction et peut-être que ça va leur donner envie d'aller chercher
bien,
un petit peu. Et puis il y a plein de clins d'œil. Encore une fois, on retrouve des endroits cultes, la bibliothèque du Skyward Orange. C'est vraiment pour les fans, c'est un vrai régal, vraiment.
C'est Melwood Park sur PC, c'est quoi ces 10
PC, Xbox One, aussi une version que j'ai essayée, qui est plutôt bien fichue, il y a des petits raccourcis pour jouer à la manette, ça marche plutôt bien, donc aussi sur Xbox One.
C'est quoi,
One.
C'est une vingtaine d'euros, je crois
Oui, je crois, 15-20 euros, ouais, à vérifier, ouais, une vingtaine d'euros. Ouais.
À vérifier, vous vérifiez. C'est le moment d'accueillir Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan, cette semaine, je vous propose plus qu'un jeu, je vous propose un concept avec Fabulosa Fractus. C'est un jeu signé Friedman Friseux, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties qui vont durer 25 minutes environ, et c'est édité en français par Edge. Friedman Friseux est un chercheur, oui, c'est un homme qui aime le jeu et qui aime inventer, innover. Et Friedman Friseux a constaté la mode du Legacy et un petit problème avec le Legacy. Le Legacy, vous savez, ce sont ces jeux que vous allez modifier en cours de partie. Vous allez déchirer des cartes, écrire en marqueur sur le plateau, vous allez coller des stickers pour modifier le jeu au fur et à mesure que vous allez faire des parties et les enchaîner. Or, il a constaté que ça gênait pas mal de monde d'abîmer le matériel. Oui. Alors, il propose avec Fabulosa Fructus un concept qui consiste à modifier son jeu, le transformer de partie en partie, sans abîmer quoi que ce soit. C'est efficace, vous allez voir comment cela fonctionne. D'abord, le jeu de base, c'est un jeu de cartes, simplement, à pose d'ouvrier. En gros, vous avez des cartes posées sur la table, à votre tour, vous allez poser un pion sur une carte, vous n'avez qu'un pion, hein, sur une carte, et vous allez en effectuer l'action, ou acheter cette dite carte. Les actions consistent à récupérer des cartes fruits, et acheter une carte consiste à vous défausser de cartes fruits pour récupérer cette carte. Bon, tout simple, efficace. Ça fonctionne. Le jeu comme ça, basiquement, fonctionne très très bien, de l'opportunisme, de la réflexion, c'est rigolo, c'est amusant, mais voilà où le jeu est innovant. Toutes les cartes ne sont pas posées sur la table au début du jeu. Vous allez poser 6 cartes, des cartes numérotées de 1 jusqu'à 6, elles sont en 4 exemplaires chacune. Quand vous allez acheter l'une des cartes, vous allez piocher dans la grosse pile de cartes proposées les nouvelles cartes. Quand vous en avez posé 6, vous allez poser les cartes 7 qui vont arriver. Et en gros, ces cartes proposent de nouvelles règles, de nouvelles actions, de nouvelles choses à faire. Le truc, c'est qu'à la fin de la partie, toutes les cartes que vous avez achetées pendant la partie, vous les mettez dans un sachet et vous ne les utiliserez plus jamais. Ce qu'il y a au centre de la table et qui a terminé votre partie, ce sera le set de base que vous allez aussi mettre dans un autre sachet. Et quand vous commencerez une nouvelle partie, vous jouerez avec ces cartes-là. Donc, vous avez des cartes que vous n'utiliserez plus et vous avez un nouveau set de base. Sachant que la boîte contient énormément de cartes. Énormément. Des cartes qui vont inventer de nouvelles règles, qui vont proposer du nouveau matériel. Vous allez devoir innover, réfléchir, vous allez devoir faire travailler vos neurones et ça fonctionne parfaitement sans abîmer le matériel. Des dizaines et des dizaines de parties différentes avec des règles différentes sans rien abîmer et arrivé au bout du bout du bout du jeu, vous allez pouvoir faire un reset. Remettre toutes les cartes du départ et recommencer. Vu le nombre de parties qu'il y a à faire, vous aurez même oublié ce qui se faisait au tout début avec les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bref, ça fonctionne. Friedman Friseux est un génie. Fabulosa Fructus pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties qui vont durer 20 à 25 minutes. C'est chez Edge et ça coûte moins de 35 euros pour un jeu absolument incroyable. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. C'est toujours un plaisir, un honneur et tout ça. Enfin, voilà. Hein, que ferions-nous sans lui? C'est le moment tant attendu, ou tant redouté plutôt, parce que Mass Effect, une trilogie.
Ah, moi,
est-ce qu'on relance une trilogie où on a sauvé l'univers ou la galaxie, je sais plus, enfin voilà. Est-ce que tout, voilà, on s'en était sorti, bon, ou pas, parce qu'il y avait eu ce problème avec la fin.
Oui, le problème avec la fin qui était qui avait tellement de
la pression
aux
fans.
Ils ont dû la réaménager, la refaire.
Il y avait une grosse communauté derrière Mass Effect. C'est la preuve, enfin, on s'appelle.
C'était le space opéra réussi.
Le Star Wars du jeu vidéo.
Plutôt Star Trek. Et il y avait le côté space opéra grandiose, épique, avec une mythologie aussi qui était derrière, qui était réussie. C'est-à-dire qu'en 3 épisodes, on parcourait on retrouvait les races extraterrestres, les liens diplomatiques, les choses comme ça. Il y avait quand même plein de choses. Après, c'est vrai que c'était un peu frustrant de se dire, ah bah oui, mais c'est fini, il n'y en aura pas d'autres. Après, on craignait quand même, bah oui, mais s'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont en faire? De toute façon, très vite, on l'a su, ça, ils allaient revenir. Et là, ils reviennent avec Mass Effect Andromeda. On n'a pas regardé de bande-annonce encore. Hein. Donc il faut la lancer. La bande annonce. We dream of exploring the unknown, discovering what lies beyond. The entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got to see it, prove it, so maybe I'm lying. No way this is home. Mass Effect Andromeda BioWare qui revient et tout ça. Et alors oui, on en parlait pendant que ça passait. C'est vrai qu'il y avait cette première trilogie. Moi, je me souviens que le premier épisode, même si bon, il y avait cette espèce de beauté graphique hein, qui ouais, avait scotché tout le monde, on avait resté un peu en demi-teinte. Moi, c'est Mass Effect 2 qui m'a vraiment 3, mis dedans, où j'ai complètement adhéré à l'univers. Je suis rendu...
Très scénarisé, très... Ouais. C'est vrai qu'il y avait un côté très...
Ouais, j'ai du mal à détacher les trois. Ouais. Vraiment, moi, je prends comme une trilogie, quoi, ouais. au sens propre. Et j'ai du mal à dissocier les trois jeux, en fait. Mais...
Et donc, comment ça commence, cet Andromeda? Alors, je vous laisse... Qui veut partir? Je sens que vous êtes... Allez,
non,
Joël,
non,
Joël.
Non,
ça commence par une création de personnage. C'est important.
Ça commence par une création de personnages. Bah, moi, je suis un fan absolu de... Alors, moi, j'adore la science-fiction. Je suis un fan absolu de Mass Effect. Je trouve qu'à l'époque, donc c'était à peu près une dizaine d'années, ouais, ils reposaient, comme tu le disais, Erwan, les bases du space opéra. Space opéra, c'est-à-dire plein de personnages, plein de planètes à visiter et qui font sentir qu'on est juste un petit bout d'humanité, quoi, parce qu'on joue on jouait un humain, donc en l'occurrence c'était le Shepard, voilà, qui pouvait être tantôt un homme, tantôt une femme. Moi, c'était pas courant à l'époque. Ma Shepard, c'était une femme, donc il m'a accompagné pendant trois jeux.
C'est vrai qu'on peut passer ce personnage d'épisode en épisode dans la trilogie.
Et c'est quelque chose. Voilà, quand on commence à lancer Mass Effect Andromeda, on se dit mais Où est ma Shepard? On se retrouve donc à refaire un personnage. Donc c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile parce qu'on a envie de retrouver le personnage qui nous a l'avatar, le personnage qui nous a accompagné pendant presque 10 ans.
Il n'y a plus de prise en compte de ta partie éventuelle que tu as eue auparavant. Il n'y a plus de prise en compte comme on pouvait l'avoir ou simuler une prise en compte.
On jette tout.
Là non, on part à zéro. Ouais.
On repart à zéro. Alors, ça commence pas très bien dans la mesure où la personnalisation du personnage est assez ratée.
J'ai fauté. Moi, je me suis fait un... Non, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de specs, donc j'ai dû passer une heure dessus à faire une sorte de clone de David Bowie qui a un nez comme ça. Et en fait, je me le traîne depuis 8 heures à l'écran et j'en peux plus. Donc, faites attention, c'est important. Voilà,
faites-le au hasard, parce que c'est pas... Voilà. Ça a été dit dans plein...
Prenez le truc par défaut.
Prenez par défaut. Bon, ça a été pas mal dit dans les médias. Effectivement, l'animation des visages n'est pas très belle à regarder, voire est plutôt laide. Donc, c'est un peu gênant d'avoir un personnage avec qu'on va balader avec une sale gueule.
C'est bizarre quand même, une licence comme Mass Effect qui a été reconnue quand même pour sa perfection graphique, à l'époque, sur 360, mais...
Ça a été patché, hein. Il y a déjà eu des mises à jour, j'ai vu des vidéos...
Non, mais c'est bizarre, ce faux pas,
Notamment sur les yeux, il y a eu des... Parce qu'au début,
c'est pas le seul faux pas, mais...
Ouais, c'est vrai qu'il y a des... Bah, on est en pleine canivalet, en termes de représentation réaliste, mais en même temps que des comportements un peu bizarres. C'est assez étrange parfois.
Ryder, nous, on se retrouve avec un nouveau personnage. Ryder qui. Alors, je trouve que ça commence très mal. Donc, Ryder, il est avec son père. Son père meurt. Alors. C'est.
Non, mais c'est un peu gênant.
Son père meurt, c'est un peu gênant. Donc, BioWare, très connu pour ses systèmes, donc ça roue des dialogues où on peut choisir choisir ce qu'on va dire. Le père meurt, on a le choix entre deux choses.
C'est un peu brut,
hein. Il est mort en héros, youpi, ou je ne le connaissais pas. Alors donc c'est un petit peu un choix à double embranchement qui est un petit peu succinct et assez gênant. Bon, c'est pas grave. Du coup le rider, le fils ou la fille, devient le nouveau pionnier, voilà. Et parce que c'est l'intelligence artificielle. Alors c'est très mal amené qu'implanté lui qui lui dit, en fait c'est toi le nouveau pionnier. Et tout le monde est d'accord pour remettre à Ryder, donc nous, les pleins pouvoirs, quoi. C'est-à-dire sur le.
Il doute pas mal. Il doute.
C'est un peu léger. Donc ça commence. On sent que dans l'écriture. On sent que ça coince déjà, qu'il n'y a pas les bons. Voilà, que les choix sont mal amenés, que c'est un petit peu raide à bien des égards. C'est pas grave, on continue. Donc, après une introduction un peu rocambolesque et pas très bien ficelée, c'est-à-dire un peu. Moi, je trouve un peu pas grand guignolesque, mais un peu grotesque. En fait, une introduction un peu grotesque. Donc, on s'embarque dans. La découverte de la galaxie Andromeda.
Ce sont des vaisseaux qui sont arrivés avec des colons en fait, pour découvrir de nouvelles planètes habitables pour installer des humains. En fait. Ils partent à l'exploration.
Dans une nouvelle galaxie.
Voilà, pour trouver nouveaux endroits.
Et là, on se retrouve avec un... C'est triste de le dire, mais avec un décalque un peu brouillon de la trilogie. Mmh. C'est-à-dire, on retrouve tous les éléments qui... En fait, on a l'impression qu'ils sont pas foulés, quoi. Qu'ils sont un peu allés, qu'ils ont pris des vacances pendant l'élaboration de ce jeu, parce qu'ils sont. On retrouve en fait tous les éléments comme le vaisseau, un espèce de vaisseau mère qu'on dirige, avec des compagnons qu'on apprend à connaître. Mais tout est mal amené, tout est un peu forcé, tout est un peu les compagnons qu'on intègre au fur et à mesure dans son équipe. Ils sont mal écrits, on n'a pas vraiment de plaisir à les découvrir. Il manque une partie de mystère qu'il y avait, qui les entourait dans la trilogie, où on avait plaisir un peu à savoir mais qui sont ces personnages, ils ont un vrai background,
des intrigues aussi, voilà. Des retournements de situation.
Tout est amené un peu en vrac, comme ça. Non, tout est amené un peu en vrac. Et on a un plaisir, c'est-à-dire qu'on retrouve les mécaniques du jeu qui nous plaisaient, comme les combats, c'est-à-dire que les combats étaient... C'est un jeu donc à la fois
combat,
d'action, enfin, c'est très combat,
c'est
un peu trop
un jeu d'action.
Un peu trop action.
Enfin, je sais pas ce qu'on veut dire, on est à 90% jeu d'action et 10% RPG. Enfin, il ne reste plus grand-chose du RPG. On est sur un third person shooter quasiment. Ouais.
C'est là où l'émerveillement qu'il peut y avoir dans la science-fiction, le questionnement sur qu'est-ce que l'humanité, qu'est-ce que l'autre, qu'est-ce
que l'autre. Ce que doit aborder la science-fiction.
Voilà. Alors là, il n'y a pas. Hein. C'est pas les premiers extraterrestres qu'on croise, c'est genre on les shoot. Voilà. C'est genre c'est pas Arrival, c'est pas genre il n'y a pas un truc sur un premier contact, comment ça se passe.
Est-ce que tout ça n'évolue pas après vers la fin? Je sais pas, j'ai pas fini. Hein. J'ai quelques heures, mais j'ai pas fini.
Non, mais c'est gênant dès le départ.
C'est vrai qu'on shoot un peu.
C'est-à-dire que je me suis dit, mais un No Man's Sky est beaucoup plus en termes de découverte de galaxies, aujourd'hui.
Oui, avec l'évolution.
Oui, un No Man's Sky est plus intéressant.
Ah, quoi. Mais c'est plus porté sur une ESF, justement, ouverte sur des mondes.
Plus généreuse, plus intrigante, plus qui remet un peu en question sur l'infiniment petit et surtout l'infiniment grand. Là, on est toujours bridé, on se sent toujours dans un jeu vidéo, en fait. C'est ça le problème. Ouais. On se sent toujours les mécaniques très rigides du jeu, aussi bien dans les combats que dans l'exploration. Alors, auparavant, il y a quelques progrès. Auparavant, dans le premier Mass Effect, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait le Mako. C'était ce véhicule terrestre qui était une savonnette, qui était impossible à conduire.
Il est mieux, le nomade. C'est ça,
le nomade est un peu mieux.
Il est mieux avec les roues motrices.
Mais quand même, il n'est pas très agréable à diriger, à conduire. Et après, les quêtes... Les quêtes sont un peu forcées, c'est au forceps quoi, que les quêtes sont imposées. On se sent jamais entraîné par le jeu, mais toujours à courir derrière des quêtes qui sont pas très intéressantes. Sans parler.
Alors c'est quoi le but? Grosso modo, le pionnier
doit découvrir. Il doit rencontrer des mondes. Mais tout est gênant. Enfin, c'est un peu gênant dans l'écriture qui nous ramène toujours dans le. Donc, on est dans un cadre de jeu vidéo. Alors, il y a des choses qui sont parfois un peu incongrues. C'est-à-dire, à un moment dans les dialogues, alors, on ne sait pas pourquoi, donc les personnages parlent un peu. Malheureusement, ils auraient peut-être dû les faire taire, mais des fois, il y a un dialogue sur. Il y a une référence à Inspecteur Gadget, à un moment, Inspecteur Gadget et Docteur Gang. Moi j'ai lu ça. Alors, est-ce que c'est un souci de localisation? Est-ce que c'est un souci de traduction? Mais Tout d'un coup, on se retrouve. Mais pourquoi nous parle de ça
ça va pas.
Moi, j'ai tendance à supporter la VF des jeux.
Sunderwood Park est plutôt très bien traduit.
Très bien traduit. Alors, pourtant, c'est un jeu qui est rempli de remarques en idiomatique.
On n'avait pas parlé, donc on va faire.
On va revenir sur. Non, mais j'ai un problème avec la VF en termes aussi bien en termes de lorsque on a justement ces choix ou en quelques mots, il faut prendre des décisions quand même. Et souvent, la phrase en français ne donne pas forcément n'est pas ce qu'on va dire dans le jeu. C'est assez dérangeant parfois. On prend une choix, puis c'est pas ce que va dire exactement le personnage. Et puis les doublages en VF sont vraiment. Il y a certains personnages qui sont vraiment pas bien doublés, quoi, avec une intonation très. Pas vulgaire, mais je veux dire très prosaïque, sans le côté épique qu'on devrait avoir dans des conditions plus qui sont assez. Alors je jette pas la pierre parce que je pense que le doublage d'un jeu comme ça doit être compliqué. S'il n'y a pas les bonnes contextualisations pour les doubleurs, c'est impossible de bien travailler.
Donc je pense que c'est aussi.
Je pense qu'il y a un problème beaucoup plus global. Moi, c'est étonnant en y jouant. J'ai trouvé que sinon j'aurais pas joué 8 heures dessus, hein, j'aurais lâché avant. J'ai pris plaisir au combat, je trouve que les combats, j'ai eu très peur au début sur le cover qui est semi-automatique. Oui. J'ai eu très peur au début, finalement on s'y fait, bon c'est pas forcément le meilleur truc mais on s'y fait. Moi j'ai plutôt bien aimé le côté combat, j'aime plutôt bien le TPS, donc j'ai trouvé que ça marchait plutôt bien, il y a une vraie tension lors des combats, etc. Moi j'ai vraiment eu la sensation de retrouver ce qu'on a aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien avec un remake ou un reboot. En y jouant, j'arrêtais pas de penser, je sais pas pourquoi, j'avais cet exemple en tête, ouais. C'est The Thing, le remake est sorti, un reboot préquel, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que c'est une préquelle de 2011, où en fait, pareil, on avait un côté assez scolaire, genre qui cochait les cases, j'ai le même univers, je puise les mêmes personnages, je retrouve le même endroit, je retrouve le monstre. Mais là, ça ne prenait pas. C'est-à-dire qu'on a beau avoir toutes les cases cochées, non, c'est pas John Carpenter qui est à la manette. On n'a pas la tension du film original. On peut prendre plaisir, un peu coupable, à se retrouver dans cet univers, à se replonger parce qu'on aime ça, retrouver des trucs, mais...
Je trouve que les environnements sont quand même...
Là, c'est pareil.
Ils sont quand même très jolis, sont quand même très beaux. Les environnements sont magnifiques.
Il y a les performances, moi, que j'aime bien dans Mass Effect, cette espèce de space opéra un peu série B aussi, avec le côté clinquant de la SF, un peu années 60, avec beaucoup de couleurs, des aliens, etc. Ça y est, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu kitsch. Après, il y a des trucs que j'ai trouvé aberrants, les épreuves de Sudoku, et quand on doit déchiffrer des trucs, waouh,
ça pique un peu. Ça fait partie des nouveetés.
Et ça, c'est bizarre. Il y a un côté plateforme qui est très appuyé. Moi, qui ne m'a pas bloqué plus que ça, parce que platformer, c'est qu'il y a beaucoup de séquences de plateforme avec le jetpack. Ah, oui. On use et on réuse du jetpack à longueur de temps. Moi, ça ne m'a pas choqué plus que ça, parce que j'aime bien les TPS. Mais je me dis, quelqu'un qui est plus attaché aux racines, rôle du jeu, qui est plus attaché, ça peut bloquer, à mon avis.
Et est-ce qu'il y a... Un début de souffle épique.
C'est là où je pense
que. Franchement, dans Mass Effect, c'est ça le truc. C'était, il y avait ce côté, il y avait l'univers qui était un petit peu en danger, et t'étais un peu le sauveur. Enfin, t'étais un peu le truc.
Oui. On avait une curiosité à rencontrer cet univers, une curiosité à se faire à rencontrer de nouvelles espèces, de nouvelles races. Ici, qu'il n'y a plus. Effectivement, dès le début, on se retrouve à. C'est un shooter, quoi, dès le début. On se retrouve à trucider les gens qui ne nous ressemblent pas. Enfin, c'est un petit peu gênant. Moi, je ne comprends pas, en fait, qu'ils ont... effectivement, je ne comprends pas ce que BioWare a voulu faire. Parce qu'ils ont repris...
C'est pas le BioWare, je crois que c'est un studio Montréal qui a bossé dessus. L'équipe d'Apple Trilogy, je crois.
Ça se sent, parce qu'après, effectivement, ils ont repris les mauvais...
Ça peut être justifié un suivi des règles, des codes de la série, sans avoir cette étincelle,
Moi, je trouve ça triste. Mais triste, mais vraiment très triste, parce que, en fait, on se dit à chaque fois... Rockstar ou Blizzard auraient jamais laissé faire ça alors à une licence majeure. C'est-à-dire, les mecs, ils auraient dit, OK, on sort un nouveau Mass Effect. Il y a des attentes. Nous aussi, on attend. C'est-à-dire que nous aussi, en tant que créateurs, on attend et on veut faire passer quelque chose et on veut faire ça. C'est pour ça qu'on va refaire un nouvel épisode parce qu'on a des choses à dire.
Et on est sur une nouvelle génération de machines, en plus. C'est quand même
on est sur une nouvelle génération de machines. Donc, il y a une attente. Et puis, on va sortir un truc qui est au moins, au moins à la hauteur du précédent et qui va le dépasser, qui va amener plus de choses. Et là, on a juste l'impression d'un truc de commande.
Oui, d'un fan service, enfin vraiment le fan service
mais
de base.
Mais même pas, les fans hurlent. Donc, on est vraiment sur un truc où on gâche, où on va sortir un espèce de truc. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail, vous l'avez dit. Il y a du boulot, il y a des paysages, il y a des choses comme ça. Mais il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas un espèce de truc où il y a un mec qui a dit bon, bah, on veut faire un jeu qui est meilleur que la trilogie précédente.
Non, c'est un jeu qui a quelque chose à dire. Mass Effect est vide.
Il est un peu stressé. En fait, son pire ennemi, c'est son nom, c'est sa marque, c'est la licence.
Bah non, mais ça devrait être son meilleur ami.
En l'occurrence, je pense que c'est le poids de la trilogie.
Effectivement, le fait. On sent le produit de commande, c'est ça qui est gênant
pour ça que
partout.
Son nom, le dessert. Enfin, dire quelque part, il n'est pas à la hauteur des attentes qu'on pouvait avoir sur.
Même si c'était appelé autrement, Space Opera truc, ça n'aurait pas fait un meilleur jeu.
Mais justement, l'absence des personnages qu'on connaissait
peut-être qu'on aurait entendu parler, ce serait pas du tout vendu.
Mais c'est vrai que l'absence des personnages qu'on aimait bien dans la trilogie originale, tout ça fait que ça crée un. Puis les tensions, les ennemis qu'on avait dans les Mass Effect, c'était quoi, les moissonneurs
Les moissonneurs.
Il y avait un côté gigantesque, même dans les l'ampleur du scénario.
Et puis moi, côté Space Opera, c'est quelque chose. Moi, après, je sais pas, ça va peut-être faire hurler, mais j'ai jamais accroché à ceux de Bungie. J'ai jamais accroché aux univers de Bungie, ni Halo, ni Destiny. Je sais qu'ils essayent de faire du Space Opera. Moi, j'y arrive pas. Je comprends. Alors, je comprends que les jeux, c'est des très bons shooters. C'est des très bons shooters à chaque fois, mais on sent qu'ils essayent de faire un truc façon Space Opera avec des mythologies, construire des mythologies des mondes. Moi, j'accroche pas. On sent que c'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est le côté shoot. Donc moi, j'avais vraiment accroché à Mass Effect. J'étais content de trouver un univers comme ça, un univers de SF classique, entre guillemets, de space opéra, qui était construit. Et je suis vraiment triste.
Non, le jeu de rôle ou le côté RPG prenait vraiment une part très importante. C'était un shooter, mais c'était avant tout un RPG. Et là, ça manque cruellement quoi, dans ce Andromeda. On a l'impression que plus d'être dans un jeu d'action où des petits bouts de RPG ont été rajoutés.
Quand tu penses qu'ils doivent avoir prévu de faire une trilogie, une deuxième trilogie...
Je pense qu'ils la feront pas. Je doute. Ils ont pris des éléments comme la découverte de planètes. En fait, il y a plein de choses qui étaient fastidieuses dans les précédents et qu'ils ont repris comme des planètes à scanner. Dans chaque système.
Le nombre de planètes que j'ai scannées.
Voilà, vous rappelez. Et là, ils ont repris ce système qui. Mais pour. Les joueurs ne le voulaient pas, quoi. C'est-à-dire, mais ils l'ont repris, ils l'ont remis, on ne sait pas pourquoi. On passe 5 minutes à scanner une planète ou un système solaire sans que ça n'apporte rien.
Sondes envoyées.
Voilà, sans que ça n'apporte rien,
sur le terrain, on passe son temps à scanner avec le système de scan pour récupérer les... On passe
pour récupérer des ressources. Ouais, c'est assez...
Il a quelque chose pour lui ou pas?
Il a les environnements. L'action, les environnements. Les environnements.
C'est une configuration de combat que j'ai trouvé intéressante quand on est en train d'explorer une base, et puis d'un seul coup, il y a une attaque, il y a une tension qui se crée, il y a des vrais moments de tension. Voilà. Mais il n'y a pas léger. Ce côté épique, clairement.
Pas ce côté émerveillement, avoir des étoiles plein les yeux.
Qui peut transcender justement les petits défauts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la première trilogie est devenue mythique, même pas malgré des défauts. Il y avait un souffle épique qui transcende les petites erreurs de gameplay.
Mais c'est à partir du moment où tu as une envie, où tu as quelque chose à dire, les erreurs se voient moins aussi.
C'est ça.
C'est vrai, ils n'étaient pas
mal. Mass Effect Andromeda, du triple A... Dans la catégorie des AAA en termes de prix, hein, Allez, on va finir par un petit ovni quand même de chez Dadelic qui arrive un peu de nulle part et avec ce nom que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le lire, j'aime beaucoup le dire.
C'est assez spécial.
Ouais, quand
c'est...
même.
Ça vas-y, rappelle, vas-y, dis-le.
Ouais, Kafka The Video Game. Kafka, Kafka The Video Game, et en fait je cherchais, ça me rappelait, parce qu'on avait reçu Cédric Lagarrigue, et c'était l'appel de The Call of Toulouse, The Official Video Game, quelque chose.
Of the book.
Ouais, non, c'était assez marrant. Mais là voilà, Kafka The Video Game, autant dire,
C'est pas rien comme nom, hein. Enfin, faut y aller quand même, s'appeler le jeu officiel de France.
Non, c'est pas official, hein.
C'est
pas
non, c'est The Video Game. Ouais,
le jeu vidéo.
Ouais. Le jeu vidéo de Kafka, ouais. Ouais. Patrick.
Oui, bah ouais, non. Alors, réussi graphiquement, moi je trouve qu'il y a une vraie patte.
C'est très beau.
C'est vraiment le truc qu'on va retenir positif. C'est graphiquement, c'est réussi. Il y a une vraie. Je sais pas comment le situer, on dirait un peu du collage découpé à l'écran. Ouais. Il y a vraiment un côté organique vraiment intéressant.
Il est dans une catégorie un peu vague, mais on va dire des très beaux jeux d'aventure indé. Enfin voilà, qui jouent sur des aplats, sur des formes très belles, qui joue sur les belles palettes de couleurs, enfin voilà, belles animations, tout est lisse, tout est fluide.
Et le gameplay est calé là-dessus, parce qu'on est sur on est entre du recherche d'objets cachés et puis manipulation d'objets dans l'écran, c'est-à-dire qu'on doit toucher des objets. En fait, c'est une compilation d'énigmes, de puzzles graphiques, avec un petit fil comme ça d'histoire, mais qui est assez décousu.
On est dans du professeur Layton. Hein, on est dans du professeur Layton.
Dans du Layton, avec des énigmes comme ça qui sont raccordées par un scénario un peu prétexte qui n'est pas forcément très. Les énigmes sont plutôt intéressantes. Elles sont vraiment sur du carton qu'on bouge, des objets qu'on doit trouver, qu'on doit manipuler, etc. C'est pas toujours très facile. Heureusement, il y a une aide in-game qui débloque des tips au bout de 2 minutes. Et puis de 4 minutes, on a 2 tips successifs. Au début, on peut s'en passer. Puis au fil du temps, on en a vraiment besoin. La difficulté avance très très vite. Donc voilà, c'est plutôt mignon. Il y a des bonnes astuces d'énigmes.
On s'en gêner quand même.
Ouais, non, mais ouais, parce que moi, Kafka, moi, j'ai un rapport très, très particulier avec Kafka. Moi, j'ai travaillé dessus à la fac, donc j'avais adoré moi, son roman culte, c'est Le Château. J'avais beaucoup aimé ce roman. Moi, j'ai toujours un peu ce problème lorsqu'on s'attaque à un auteur comme lui qui est très complexe. Je ne veux pas faire le vieux con qui vient
le
un
prof
peu
de
taper
lettres.
Sur. Voilà, non, je ne veux surtout pas faire ça, mais. Attention, enfin voilà, c'est toujours un peu réducteur de dire voilà, là le jeu il mise sur l'absurde, sur des situations absurdes, un peu incompréhensibles et cryptiques. Et en gros, Kafka c'est ça, c'est qu'on est dans un monde joli, graphique, kafkaïen et un peu absurde. Et débrouillez-vous que le scénario qui est un petit peu imbitable. Ah bah non, Kafka c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a de l'absurde, bien sûr. Il y a pas d'espoir dans Kafka. Enfin, c'est beaucoup plus profond que ça. Kafka il a à peu près senti ce que deviendrait l'existentialisme quelques années plus tard en posant des questions, etc., sur l'existence. Donc, moi, j'ai un peu ce problème de réduction de Kafka à ça, en fait. Ça me pose un petit problème de conscience parce que, encore une fois, si c'est difficile hein, de réduire, parce que là, en plus, on s'attaque pas à un roman, on s'attaque à Kafka en général et on réduit un peu Kafka à ça. C'est pas aussi simple, je trouve ça un petit peu réducteur et je trouve ça un peu dommage. Je pense que le roman Le Château mériterait d'être tenté en lui-même. Alors il y a eu des tentatives en film, je crois même en téléfilm. C'est très complexe. Et je pense que Kafka passe très très mal à l'image. Il y a eu des tests, je crois, sur la métamorphose aussi. La métamorphose, par excellence, c'est infaisable à l'image. C'est très compliqué parce que c'est un absurde cérébral, sans vouloir utiliser le mot.
C'est une bonne idée, quand même, vouloir adapter l'univers de cet auteur.
C'est une bonne idée,
parce qu'on parle de Lovecraft. Lovecraft, ça s'y prête.
Et Kafka. Oui, mais Lovecraft, on parlait de Cthulhu, c'est une œuvre particulière qu'on va attaquer. Et on sait que, de toute façon, on ne pourra jamais reproduire Cthulhu à l'écran parce que ça sera toujours réducteur. On le sait. On sait que c'est très difficile à attaquer. Dans un jeu vidéo. Alors c'est bien, je suis partagé entre l'idée de dire c'est bien de sensibiliser à Kafka, de dire que ça peut-être intéresser des joueurs qui vont rentrer par ce jeu et se dire tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur cet univers, sur cet auteur. Après, je me dis, moi, j'aurais plutôt envie qu'on attaque le château, peut-être sous forme, j'en sais rien, peut-être d'un jeu d'aventure textuel, interactif.
Comme tu disais, Kafka.
Non, mais pourquoi pas. En fait, ça pose des questions.
Mais Kafka,
de
ça aussi, tu disais, tu citais les thèmes chez Kafka, il y a aussi la paranoïa, il y a le sentiment de la solitude, tous ces sentiments qu'un jeu.
Y a beaucoup plus de légèreté d'une part, parce que c'est un univers quand même assez coloré, même si, il y a un petit peu de touche un peu plus noire, mais ça, c'est, on est dans une sorte de surréalisme gentil,
Alors que Kafka, c'est pas forcément gentil. Hein. C'est un peu le contresens. C'est que Kafka, c'est violent, le château.
Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le jeu en lui-même, c'est les énigmes sont marrantes parce qu'elles sont aussi surréalistes que le jeu. Ouais, c'est-à-dire que, contrairement à un professeur Layton où on va essayer de comprendre la logique, où finalement, c'est la logique se comprend et après il faut suivre la logique, donc il faut décrypter comme ça les énigmes à partir d'une logique qu'on comprend. Là, on est très vite perdu parce que on va se mettre à cliquer un peu à droite à gauche et finalement très vite, tu l'as dit, on a besoin au moins du premier indice, bon, sachant que le deuxième indice c'est la solution, hein, grosso modo.
On clique partout, on sort du jeu, on sort un petit peu de ce que voulait créer le jeu, c'est-à-dire nous mettre face à un objet un peu absurde. Et finalement non, on commence à cliquer un peu partout, à attendre la solution qui va tomber. On sort d'une mécanique du jeu et on commence à attendre qu'il nous donne des tips.
Très étrangement, très étrangement, il y a la première énigme. La première énigme, c'est où il hypnotise une patiente. Et on déplace des éléments, ça joue avec de la lumière.
Elle est
très belle et très très prometteuse.
Il y a côté image énigme. D'Épinal.
Voilà, exactement. Et cette première énigme de Kafka, je la trouve très belle et je la trouvais très prometteuse. Je me dis, si c'est basé là-dessus, un professeur Layton comme ça, basé sur ces univers-là, why not? Et en fait, très vite, effectivement, on tombe sur des choses un peu compliquées, un peu difficiles.
J'ai vraiment bloqué, que j'ai pas réussi à passer. Enfin, moi, il y en a une avec une espèce d'horloge avec des chiffres insérés. J'ai vraiment pas compris. J'ai vraiment bloqué dessus.
Et il y en a certaines qui sont marrantes parce que tu as besoin des deux indices. Et là, au deuxième indice, tu te dis. En fait, j'aurais jamais pu trouver sans, mais c'est rigolo. La solution marrante. Voilà.
Encore une fois, moi ça me pose un petit peu un problème. C'est marrant parce qu'autant un jeu Picasso, par exemple, pourquoi pas? Parce que Picasso, c'est du visuel par définition. Pourquoi pas jouer avec des figures de Picasso? Ça s'y prête peut-être davantage.
Je parle justement de visuel. Là, ce qui était intéressant, c'est de transposer un univers littéraire. Mais bon, il souffre peut-être de son ambition. Imaginons un Stephen King de video game.
Stories Untold, il y a ça. Oui. Inspiré plutôt. Il aurait pu avoir une inspiration. Là, ce qui m'ennuie, alors pourquoi Kafka? Parce que Kafka, ça fait vraiment appel au fort intérieur du lecteur. Et quand on lit du Kafka, on se construit, on se bâtit soi-même le monde qu'il a voulu qu'on se bâtisse. Et on met beaucoup de soi-même en lisant du Kafka. Et là, du coup, nous servons quand même un scénario un petit peu bizarre et pas très profond. Je trouve que c'est un petit peu léger, alors que justement, ça appelle à l'interprétation, par définition, Kafka.
Oui, en tout cas, je trouve ça intéressant
de
s'approprier des univers littéraires, je trouve ça intéressant. Je pense que ça a refaire.
Que la culture, comme The Cure avait repris, va s'inspirer de Camus pour une chanson. Mm-hmm. Et c'est très bien aussi de questionner la matière littéraire. En voyant aussi les limitations du propos, il faut être à la hauteur.
Une dizaine d'euros sur Steam, notamment Kafka The Video Game. C'est fini pour cette semaine, chers amis. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël ?
Je suis en train de faire deux choses. Je suis en train de suivre la série qui s'appelle Void, qui est en train de passer sur la chaîne américaine FX. En ce moment, et qui raconte l'affrontement entre deux actrices américaines célèbres, Joan Crawford et Bette Davis. Deux monstres sacrés du cinéma et qui se détestaient absolument et qui se sont retrouvés
dans un film
qu'est-il arrivé à Baby Jane. De cette rivalité, elles se détestaient ces deux actrices. Et jusqu'à la cérémonie des Oscars où l'une a fait du lobbying contre l'autre. Alors, je raconte pas tout, mais en tout cas, c'est une série qui a été créée par Ryan Murphy, donc le créateur des American Horror Story, de Glee, tout ça, et qui est incarné qui est joué en fait par Jessica Lange dans le rôle de Joan Crawford et Suzanne Sarandon dans le rôle de Bette Davis. C'est un vrai régal, quoi.
Et donc, tu rappelles le nom de la série ?
Oui, il s'appelle Feud, F-E-U-D, en anglais ça veut dire querelle. Voilà. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est un livre génial que je recommande, c'est La vie secrète des arbres. Écrit par un Allemand qui s'appelle Peter Wohlleben. C'est sorti en français aux éditions Les Arènes. Et là, vous allez découvrir, mais vous allez aimer les arbres. Vous allez avoir envie de les étreindre parce que les arbres sont vivants, ils bougent, mais ils communiquent entre eux, ils bougent, mais alors à une échelle beaucoup plus, de temps, beaucoup plus large, grande que nous. Mais c'est un livre fabuleux. Vous verrez plus les arbres autrement.
Des arbres. Hein.
Ouais, et vous aurez envie de les, voilà, de les embrasser, de les aimer davantage. Lisez-le, c'est génial.
Super. Patrick.
Moi, j'ai vu un excellent documentaire sur Brian De Palma qui est passé sur Arte. Alors, malheureusement, je pense qu'il n'est plus en replay. C'est peut-être plutôt un avis. Si jamais il repasse, le loupez pas, ou s'il passe en VOD sur Arte, je ne sais pas. Une heure et demie, passionnant, parce que le monsieur, il a quand même 76 ans aujourd'hui. Donc, une heure et demie, il revient chronologiquement sur tous ses films. Et c'est génial parce que
sans langue de bois.
Sans langue de bois, il donne voilà tous les détails sur la censure, sur Scarface. Ça commence, c'est le début du reportage, et il nous parle de Vertigo de Hitchcock. Il dit moi c'est un film qui m'a marqué. C'est le film. Waouh. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'il nous parle de son affection pour Hitchcock, de son obsession même pour Hitchcock, hein, parce que c'est une figure récurrente dans tous ses films. Et c'est passionnant. Et il parle de la façon dont il a travaillé.
Il fait un mec SF un peu. Bon.
Oui, il parle
il dit,
de
Mission to Mars. Je l'ai fait.
Il parle de Tom Cruise pour Mission Impossible. C'est vraiment passionnant. Regardez-le si vous pouvez D'accord. le voir. C'est génialissime.
D'accord. Moi, j'ai passé mon tour parce que, de fait, hein, comme je l'ai dit, j'ai déménagé.
Ça fait assez... des cartons,
ah, oui. Hey, j'ai découvert, j'ai quand même fait de la peinture et j'avais jamais fait. J'en ai fait beaucoup et j'ai posé des... Enfin, bon, bref, c'est... ça n'a aucun intérêt. Merci à tous les deux. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur No Life, sur Libération et sur les internets. Ciao.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.